Voici les titres du journal.
L'assemblée primaire de Vionne a accepté sans coup férir hier soir le budget 2022 de la commune. On en parle dans un instant avec Yves Terrani. Pas de ski gratuit au Giet cette année. Des travaux de mise aux normes sont nécessaires, mais qui permettront d'ouvrir l'hiver prochain avec peut-être même un jardin des neiges. L'heure est au bilan pour la commune de Vouvry au sujet du trafic et du parkage sur la route de Mire. Et il est plutôt bon, même s'il y a encore du pain sur la planche. En cyclisme, le Tour de Romandie a levé le voile sur les nouveautés que comprendra sa 75e édition l'an prochain. Et en hockey sur glace, Dave Souter va retrouver le maillot de l'équipe nationale dès ce soir à Viège.
Pour la météo, du stratus en plaine qui devrait se dissiper probablement en cours d'après-midi, sinon partout ailleurs du soleil. Et puis pour demain, toujours ce stratus en plaine et du soleil en montagne. La météo complète à la fin de ce journal. Un journal qui nous est présenté par Valérie Blum. Bonjour Valérie.
Bonjour. Un oui unanime, celui de l'assemblée primaire de Vionne hier soir au budget 2022 de la commune. Ce dernier prévoit une marge d'autofinancement de l'ordre de 777 500 francs pour un total de revenus de 12,9 millions et des investissements nets à hauteur de 2,5 millions. Voilà pour les montants essentiels. Bonjour Yves Terrani.
Bonjour.
Vous avez suivi cette assemblée primaire avec en toile de fond une pointe d'inquiétude tout de même pour l'avenir des finances communales.
Oui, ce que laisse d'ailleurs transparaître le plan quadriennal 2022-2025 présenté à l'Assemblée, une assemblée rondement menée par la présidente Valérie Bressoux-Guérin et au cours de laquelle la précision dans les explications du conseiller communal chargé des finances, Raphaël Filly, a permis un déroulé de la présentation des chiffres tout en rondeur. Alors, ce que l'on peut dire justement à propos de ce budget 2022 de Vionne, c'est qu'avec une progression de 5,5%, les charges financières de la commune sont maîtrisées. Seulement, voilà, les revenus financiers en augmentation de 4,20%. 1% seulement ne suffisent pas à assurer une marge d'autofinancement égale à celle de cette année et les choses ne devraient pas s'améliorer à l'avenir.
Et donc Vionne ne va pas vers le beau avec ses finances.
C'est ce que nous avons fait observer à la présidente de la commune, Valérie Bressoux-Guérin.
C'est une question d'appréciation, c'est une question aussi de maîtrise des projets que l'on veut faire. Donc je pense que effectivement ça devient de plus en plus difficile pour les communes parce qu'on a quasiment 37% de charges qu'on ne peut pas bouger. Donc sur un budget, ça fait beaucoup. 4 francs sur 10 sont déjà bloqués. Mais je pense que c'est à nous de trouver des solutions les plus intelligentes, les plus réactives et proactives pour pouvoir réussir à mener à bien tout ce que l'on doit faire dans une commune.
Et Vionne doit investir, vous l'avez relevé Valérie, 2,5 millions figurent au budget pour cela, qui iront prioritairement au trafic, au réseau d'eau et à l'informatique.
Et quelle recette Yves pour que Vionne s'en sorte?
Déjà, poursuivre et développer des collaborations intercommunales avec les communes du Haut-Lac dans un souci de rationalisation et d'efficience. Retravailler les services autofinancés, c'est une priorité car ils sont largement déficitaires. Maîtriser les investissements sur le moyen terme, les prioriser. Composer au mieux, on l'a compris de la bouche de la présidente, avec les charges liées ou de transfert de la part du canton qui ne cesse d'augmenter. Bref, en croire les autorités vionnaises, il s'agit de prendre des mesures adaptées pour assurer la pérennité des finances communales. Mais est-ce envisageable? Question posée à Raphaël Filier.
Oui, bien sûr, on peut faire beaucoup de choses. C'est clair qu'on a commencé cette législature avec un ancien plan financier. Maintenant, on s'est attelé au plan financier des 4 prochaines années. La commission des finances travaille assidûment sur les plans financiers dans la première partie de l'année. On va aussi faire des efforts sur les budgets de fonctionnement de la commune pour voir là où est-ce qu'on peut encore faire des économies. C'est important pour nous de pouvoir avoir aussi un petit peu d'argent de côté dans l'intérêt des générations futures.
Bref, du pain sur la planche, Yves. Mais il n'y avait pas que le budget 2022 et le plan quadriennal 2022-2025 au menu de l'Assemblée primaire d'hier soir.
Ouais, en effet, avec une mauvaise nouvelle tout d'abord, l'abandon du projet de chauffage à distance. Pour faire court, les deux business plans proposés par ENV Énergie Nouvelle Vionne SA, société anonyme essentiellement à main communale, n'ont pas convaincu l'exécutif local. Selon Raphaël Filier, la sécurité quant à la rentabilité du chauffage à distance n'était pas assurée. Et puis l'Assemblée primaire a aussi pris connaissance des étapes à venir s'agissant du plan d'affectation des zones. Une information publique à ce propos sera donnée en 2022. Homologation finale par le Conseil d'État, programmée si tout va bien à l'horizon 2026. Enfin, il a aussi été question hier soir du passage du Tour de France cycliste l'an prochain à Vionne, de soucis récents de déneigement ou encore de la sécurité des écoliers qui traversent la route cantonale. Entre autres.
Merci beaucoup Yves pour toutes ces explications. J'ajoute que nous recevrons ce soir en direct dans le club entre 17h et 17h30 la présidente de la commune de Vionne, Valérie Bressoux-Guérin, pour évoquer le budget 2022, entre autres.
Pas de téléjiette pour les familles ou les écoles de la région.
Les 2 téléskis accessibles gratuitement au-dessus de Montet seront fermés cet hiver puisque leur propriétaire, Alain Bosco, doit y effectuer des travaux de mise aux normes. Et s'il parvient chaque année à trouver le budget de 80 000 à 100 000 francs temps nécessaire pour proposer ces pistes aux Chablaisiens, ce chantier réclame une manne supplémentaire. Hors de question toutefois de commencer à facturer la journée ou la remontée au JET, Alain Bosco.
C'est une chose qu'on peut entendre, mais c'est juste pas possible parce que une journée coûte à peu près 800 francs. Donc, si vous faisiez ne serait-ce qu'une journée à 10 francs, il faudrait ça jouerait pas quoi. L'idée de base, c'est vraiment de proposer l'accès au ski gratuitement pour tous, parce que maintenant le ski c'est devenu un sport. Avant, c'était un sport populaire. Je veux dire, on allait avec l'école, on allait faire des camps, enfin tout le monde skiait, enfin plus ou moins tout le monde skiait. Et puis maintenant, c'est devenu un sport élitiste, donc c'est un peu triste dans un canton qui a revendiqué par deux fois les Jeux Olympiques que les deux tiers d'une classe d'école n'a pas accès au ski, quoi. Donc c'est un petit peu l'idée, c'était ça, c'était de redonner le goût au ski. Alors c'est vrai que en faisant ce jardin des neiges, ça nous permettrait d'élargir la palette aux tout débutants, et puis après ben les débutants peuvent emprunter les téléskis, puis après ben quand ils ont envie de skier, ben qu'ils ont pris le goût au ski, ben qu'ils aillent à Champéry, à Morgin, à Villars, où ils veulent.
Alain Bosco est motivé par le contact avec ses clients, et ce nouveau projet de jardin des neiges n'est qu'une idée parmi les nombreuses qu'il a en tête.
C'est un peu, voilà, on est des passionnés. Moi, je trouve que c'est chouette d'avoir une station gratuite à 20 minutes de montée. Donc, la commune nous aide un petit peu. Enfin, je veux dire, ils font ce qu'ils peuvent, hein. Tout le monde a ses priorités aussi. Donc, mais je trouve qu'on pourrait, avec un peu de volonté, on pourrait faire quelque chose d'absolument unique, là. Pour les écoles, moi, j'avais même imaginé faire des petits stages pour les enfants, pour les au niveau des dangers d'avalanche, qu'ils aient une petite notion de ce que c'est une avalanche, vu que beaucoup de gens font de la raquette maintenant, du ski de fond, parce que c'est là aussi, c'est il y a les pistes de fond, c'est génial, là-haut c'est quand même un endroit, c'est un joli parc de jeux, quoi. Ça vaudrait la peine de pas laisser tomber tout ça, quoi.
Et à propos d'avalanche, le secteur est tout de même miné et surveillé par le service de sécurité montaisan, qui rappelle toutefois de demeurer prudent. À savoir encore que cet hiver, l'auberge de Chindonne sera également fermée. Il est par contre possible de se promener à raquettes dans la région entre les Cerniers et les Giettes, ou profiter de la piste de ski de fond qui sera prochainement ouverte.
Un parking de 8 ans de place pour plusieurs centaines de véhicules.
C'est l'offre famélique du parking du Flon sur les hauts de la commune de Vouvry. Il est censé accueillir tous les touristes souhaitant se rendre à pied au lac de Tannay l'été, mais très vite complet, des centaines d'automobilistes sont contraints à se parquer en bordure de route. Une situation qui a poussé les autorités à réagir en juin dernier. Les premières mesures visent à désengorger le hameau de Mie et à sécuriser le trafic. Le bilan est dressé par la présidente de la commune, Véronique Gab-Vuadens. Elle est au micro de Guillaume Abbé.
En tout cas, l'objectif de désengorger Mie a été atteint. Maintenant, par rapport à la circulation et au stationnement, je pense qu'on n'a pas encore atteint tous les objectifs. D'une part, le parking de Chavalon est probablement une solution temporaire, puisque le site ne nous appartient pas. Nous devons reposer des analyses et lancer des études en prévision de la saison prochaine pour trouver d'autres solutions, que ce soit en plaine ou entre Vouvry et Mie.
Est-ce que vous avez déjà des esquisses de ces décisions 2022 ?
Ce qui sera très important pour l'année prochaine, c'est de mettre l'accent sur la communication, où on a vu que cette année, on a peut-être été un peu tard ou incomplet, et là, on va essayer de mieux se préparer et de mieux préparer les gens qui veulent accéder à Tannay avec une communication claire et précise. On va essayer d'apporter les compléments importants qui manquaient cette année, en particulier au niveau sécuritaire. Et puis, au niveau de la mobilité aussi, en lien avec les courses postales, d'améliorer la possibilité de monter autrement qu'en voiture. Les deux grands axes qui vont être analysés en priorité début 2022, c'est vraiment une analyse sur ces parkings. Ça veut dire explorer quels sites, que ce soit en plaine ou en montagne, pourraient être équipés et recevoir un certain nombre de voitures. À noter que le projet du parking du Flon n'est pas encore enterré, qu'il y a des études en cours, des études hydrologiques. Le site prévu contient des sources, mais également une analyse liée à d'autres types d'accès entre Vouvry et Mie, en particulier la liaison par câble, puisqu'il nous semble réunir un certain nombre de critères qui nous donneraient accès à ce type de mobilité.
Mais la réflexion doit se faire à long terme. Des projets comme un nouveau parking ou une liaison câblée justement avec la plaine sont à l'étude. Actuellement, la commune de Vouvry a décidé de se doter d'une commission ad hoc pour trouver la meilleure solution possible. On retrouve Véronique Gabuadance.
2021 était un peu une phase de transition. Il nous a paru important de créer une commission ad hoc avec des représentants de MIT, ANEF, Vouvry, mais également un représentant des restaurateurs et puis aussi du quart postal. On s'est rendu compte qu'en fonction de quel point de vue on se plaçait, les résultats n'étaient pas les mêmes. Donc je crois qu'on peut dire que les habitants de Mie se sont réjouis d'avoir retrouvé un calme perdu depuis très longtemps. Par contre, évidemment que les touristes, peut-être habitués à avoir un accès direct à Tanay en 45 minutes en parquant au flanc, tout de coup, ils devaient rajouter 45 minutes depuis Chavalon ou alors partir de Vouvry. Ça nous a paru extrêmement important de faire le point sur ces points positifs ou négatifs et puis d'en tirer des conclusions pour l'année prochaine.
C'était un sujet de Guillaume Abbé. L'accueil de jour des enfants s'organise sur la Riviera. À la suite de la décision de la ville de Vevey de sortir du réseau Rêve à la fin de cette année, laquelle s'occupait de la gestion opérationnelle, un réseau transitoire va être mis en place jusqu'à décembre 2024. Pour les familles, les collectivités mettent tout en œuvre pour qu'il y ait le moins de changements possible. Les communes de la Tour de Paix et du Cercle de Corsier s'activent actuellement à trouver des solutions et à créer des places supplémentaires. L'opération Nez Rouge 2021 s'élargit. Après Zurich et le Val-Est, autour de 5 autres sections régionales de commencer leurs activités, parmi lesquelles Nez Rouge Est Vaudois. Dès cette fin de semaine, les utilisateurs pourront composer le numéro gratuit 0800 802 208 pour rentrer chez eux en toute sécurité. Par ailleurs, l'organisation est toujours à la recherche de bénévoles.
Ils sont 3 verts libéraux à se lancer dans la course au Conseil d'État vaudois.
Graziella Schaller, Chloé Pointet et Jérôme de Benedictis sont choisis mardi soir, ont été choisis mardi soir lors d'une assemblée générale à huis clos. Active en politique depuis de nombreuses années, Graziella Schaller siège depuis 2012 au Grand Conseil vaudois. Notre consoeur de LFM lui a demandé pourquoi se lancer maintenant dans la course à l'exécutif cantonal.
En fait, d'abord, je me m'étais engagée chez les libéraux. Au moment où j'ai commencé la politique, j'ai rejoint donc le parti en 2010. Et puis maintenant, évidemment, on n'aurait pas pu briguer un siège au Conseil d'État. Au début, on était un petit parti. Maintenant, on a bien grandi. Et je pense qu'on a vraiment une place, les Verts libéraux ont vraiment un rôle et une place à jouer dans la politique cantonale. Et c'est le moment où il y a des renouvellements au Conseil d'État, il y a des places à prendre. C'est vraiment le moment opportun de se manifester dans cette course au Conseil d'État.
On le rappelle, 14 autres candidats se sont lancés dans la course au Conseil d'État vaudois. 3 pour le PS et 3 pour le PLR, 4 pour Ensemble à gauche, 2 pour le POP, 1 pour l'UDC et 1 pour les Verts. Le budget 2022 de la Confédération accusera un déficit de 2,319 milliards de francs. C'est 236 millions de plus que prévu par le gouvernement. Le Parlement exige toutefois que la Confédération économise 21 millions de francs sur son personnel. Les deux chambres se sont affrontées jusqu'au bout sur cette coupe transverse proposée par les sénateurs pour ralentir l'augmentation des charges dans ce domaine. Cette économie a été maintenue par la conférence de conciliation. Le Conseil des États a approuvé cette proposition en début de matinée par 27 voix contre 11. Le National a suivi par 119 voix contre 69. Le PS et les Verts estiment qu'il s'agit d'une tragédie et d'une mauvaise nouvelle en fin d'année alors que le personnel a fourni un excellent travail.
La 5G peut s'installer en Suisse.
Même si en réalité les opérateurs téléphoniques n'ont pas attendu la décision du Parlement, ce matin, le Conseil des États a repoussé sans opposition les initiatives des cantons de Genève, de Neuchâtel et du Jura qui réclamaient un moratoire sur la 5G. Aucun sénateur n'a soutenu les injonctions cantonales. Le Conseil des États a préféré un postulat peu contraignant qui demande au Conseil fédéral de faire preuve de prudence. Écoutez la vice-présidente de la Commission des télécommunications du Conseil des États, la Valaisanne du Centre, Marianne Marais.
On avait 3 cantons qui ont déposé une initiative cantonale, mais il faut savoir que dans d'autres cantons où les mêmes questions ont été posées au Parlement, les cantons ont refusé. Donc il n'y a pas une volonté manifeste de tous les cantons suisses pour mettre en place ce moratoire sur la 5G. Pour nous, il est quand même important aujourd'hui d'avancer, mais d'avancer le mieux possible. Un moratoire, ça bloque tout. Or, il n'y a pas forcément une majorité de la Commission qui pense que la 5G utilisée dans les règles de l'art soit si néfaste que ça. Donc nous avons préféré ne pas bloquer. Néanmoins, déposer un postulat de commission. Et dans ce postulat de commission, nous reprenons les principales questions contenues dans les initiatives cantonales, à savoir la dangerosité quand même de ces ondes, quels modèles techniques sont appropriés ou pas. Et dans notre postulat, il y a aussi une chose qui est très très importante, c'est l'intégration des cantons. Parce qu'aujourd'hui, les cantons sont un peu livrés à eux-mêmes quant à cette 5G.
Si en plénum du Conseil des États, le débat a été bref et sans éclat de voix, il en va autrement en coulisses. Marianne Marais confie avoir subi des pressions.
Je peux vous dire que moi j'ai reçu des mails en préparation de mon travail de commission, pas piqué des verres, hein, avec une agressivité dans le sens où on nous culpabilise, où on nous dit presque que nous sommes des tueurs potentiels si on cautionne ces 5G. Le climat est très très conflictuel parce que de nouveau, à l'instar du vaccin, cette 5G elle crée des peurs chez un certain nombre de personnes et c'est pour ça qu'il faut vraiment informer la population davantage, la prendre avec, mais je pense que la majorité de la population est consciente aujourd'hui que sans la 5G, la Suisse serait définitivement une île.
Des propos recueillis par notre correspondant à Berne, Serge Jubin. Le Conseil national doit encore se prononcer sur les initiatives des cantons de Genève, Neuchâtel et du Jura. À l'étranger, le super typhon Rai a touché terre aujourd'hui dans le centre des Philippines, a annoncé l'agence météorologique du pays. Le cyclone extrêmement violent a obligé des dizaines de milliers de personnes à évacuer. Il était accompagné de vents atteignant 195 km/h. Il circule en France 110 000 faux passes sanitaires anti-Covid, a appris l'AFP aujourd'hui auprès de l'entourage du ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Des faux passes qui impliquent souvent la complicité de véritables médecins ou du personnel soignant, ce qui est compliqué à prouver. La peine encourue pour l'utilisation d'un faux passe peut aller jusqu'à 5 ans de détention.
5 enfants ont été tués et plusieurs autres grièvement blessés aujourd'hui en Australie.
C'est ce qui est arrivé lorsque le château gonflable sur lequel ils jouaient a été emporté par une rafale de vent, selon la police. L'accident a eu lieu pendant une kermesse de fin de trimestre dans une école primaire de Devonport, sur l'île de Tasmanie. Les enfants ont fait une chute d'une dizaine de mètres. 4 d'entre eux, âgés d'environ 10 à 12 ans, ont été tués sur le coup et un 5e a succombé à ses blessures à l'hôpital, a indiqué la police de Tasmanie. La météo avait prévu des vents légers et un temps ensoleillé en ce début d'été austral dans la région située sur la côte nord de la Tasmanie. Un nombre record de 488 professionnels des médias sont emprisonnés dans le monde, déplore Reporters sans frontières dans son bilan annuel. Jamais le nombre de journalistes emprisonnés n'avait été aussi élevé, constate l'ONG de défense de la liberté de la presse dans un communiqué publié aujourd'hui. Jamais non plus RSF n'avait recensé autant de femmes journalistes détenues, au total 60, soit un tiers de plus qu'en 2020, déplore l'association. En hockey sur glace, de nouveaux actionnaires entrent dans la danse au HC Valais-Chablais. Frédéric Cretet, François Pellissier et Bernard Pilet vont désormais épauler Patrick Poli à la tête du club. Un club qui souhaiterait encore convaincre un investisseur chablaisien afin de représenter toute la région couverte par le HCV. Mais ce nouveau trio offre d'ores et déjà de meilleures perspectives de stabilité à long terme, à commencer par la première équipe de Martigny. Les dirigeants ont d'ailleurs déposé en parallèle un dossier pour une éventuelle promotion en Swiss League, soit le deuxième échelon national. Sur le plan sportif, la formation octodurienne s'est inclinée hier soir au MS League. Devant leur public, les Valaisans ont été battus 2-1 en prolongation par le SC Lys, excusez-moi. La pénalité mineure écopée par les Martignerins durant la période supplémentaire leur a été fatale.
Hockey sur glace toujours, Dave Souter va pouvoir remettre le maillot de la Suisse.
3 ans et demi après sa dernière convocation en équipe nationale, le défenseur montaisan a été rappelé par Patrick Fischer. Le sélectionneur a appelé le Chablaisien en dernière minute pour disputer aujourd'hui et demain le tournoi de préparation de Viège. Il s'agit de la dernière échéance pour les Helvètes qui défieront la Lettonie à 19h45 avant les Jeux Olympiques prévus en février à Pékin. De retour sous le maillot rouge à croix blanche, le Valaisan se prend-il donc à rêver à de grandes échéances, que ce soit les JO ou le championnat du monde? La réponse de Dave Souter.
Pour l'instant, je me concentre plus sur le fait que on a encore un championnat à finir. Et pour l'instant, on pratique, on a une bonne saison, mais c'est clair qu'on ne veut pas s'arrêter là. Puis on sait que la deuxième partie est toujours beaucoup plus compliquée. Ça a beaucoup plus bataillé et puis il va falloir être prêt pour ça aussi. Donc pour l'instant, je suis à 100% avec mon club, quoi.
Des propos recueillis par Ludovic Turin. 2 matchs attendent donc la Suisse d'ici demain au tournoi international de Viège. Après leur rencontre ce soir face à la Lettonie, les Helvètes en découdront 24 heures plus tard avec la Slovaquie ou la Norvège.
En cyclisme, la 75e édition du Tour de Romandie sera festive et palpitante.
L'an prochain, la boucle romande fêtera son trois quarts de siècle d'existence. Pour l'occasion, ses organisateurs ont prévu un programme spécial qui comprendra bon nombre de festivités. Il comprendra surtout 6 étapes dans une épreuve reine entre Aigle et Tinal. Un parcours qui fera la part belle aux grimpeurs avec 712 km pour plus de 14 000 mètres de dénivelé. Ce Tour de Romandie 2022 sera le plus montagneux de son histoire. Reste que les tracés en hauteur sont monnaie courante sur cette boucle romande. Ils font même partie de l'identité de la manifestation, comme l'explique son patron, Richard Chassot.
Je crois que c'est vraiment son ADN. En fait, la plupart des grands champions qui ont gagné le Tour de Romandie, de Kubler à passant par Merckx, Hinault ou n'importe lesquels, ont fait la différence dans la montagne, dans les Alpes. C'est les grands coureurs qui vont ensuite aller, ces coureurs complets, gagner un Tour de France ou un Giro. C'est sûr que pour nous, l'étape de montagne, avec le patrimoine qu'on a, c'est clair qu'en avril, on a des fois des difficultés de climat, mais c'est quelque chose qui peut pas être enlevé à son ADN. Je veux dire, jamais on enlèvera la montagne au Tour de Romandie. Au contraire, on a tendance à la rendre de plus en plus difficile, de plus en plus concentrée. On va pas faire une longue étape de 270 km avec 7 cols non plus, ça nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir 180 km, 4h30 à 5h de course, avec de la bataille, avec les meilleurs qui n'ont pas le risque de perdre la course. Ils prennent le risque de la gagner. Donc ils attaquent, ils vont, voilà, c'est pas le Tour de France. Si tout d'un coup je perds une journée, bon, c'est pas grave. On l'a vécu avec Quintana, on l'a vécu avec Bernal, on l'a vécu avec plein de champions qui ont testé des choses. Et puis souvent, l'étape de montagne, c'est un vrai baromètre pour ces équipes, pour savoir où ils en sont à l'approche du Giro et du Tour de France. Sur leur baromètre, donc depuis des années, ils viennent se tester là, et pour nous, on va continuer évidemment pour ces meilleurs coureurs de leur offrir ce patrimoine-là.
Tout dernier mot sur le côté actualité de cette conférence de presse, Richard Chassot, peut-être sur le côté mesures sanitaires liées au Covid, on n'en a pas forcément entendu parler. Il y a eu une question d'un confrère qui a ramené un petit peu la réalité au goût du jour, mais il y a aussi ce paramètre-là qu'il ne faut pas oublier. Vous y pensez? Vous avez des plans de secours au cas où?
Oui, pour plaisanter, c'est comme la neige, on y pense toujours, on espère l'éviter. Il y a une épée de Damoclès en permanence sur tout événement aujourd'hui, sur même la vie au quotidien. On se rend compte que les gouvernements peuvent en plus maintenant, avec la pratique, fermer très rapidement comme ouvrir très rapidement. Il suffit de peu de choses pour fermer un pays, pour faire une quarantaine, donc on ne sait jamais. Nous, notre travail, c'est de préparer le Tour de Romandie dans sa globalité, pour être prêt. Si on nous enlève quelque chose en fin de mois ou qu'on nous autorise quelque chose de plus, plus on ne fera pas, mais moins on est capable d'enlever, ça c'est sûr. Néanmoins, on est assez confiant.
Richard Chassot répondait à Ludovic Turin. La 75e édition du Tour de Romandie se tiendra donc du 26 avril au 1er mai 2022. Il s'élancera par un prologue au départ de Lausanne. À noter également que le premier Tour de Romandie féminin aura lieu, quant à lui, du 7 au 9 octobre 2022. Et en Formule 1, Mercedes et Lewis Hamilton s'avouent vaincus. L'écurie allemande a retiré son appel contre les conditions dans lesquelles Max Verstappen a décroché dimanche son titre de champion du monde. Le Néerlandais avait alors dépassé Lewis Hamilton dans le dernier tour du Grand Prix d'Abu Dhabi, une séquence qui a débouché sur l'ouverture d'une enquête par la Fédération internationale de l'automobile. Cette dernière l'a annoncé hier soir.
Retrouvez toute l'actualité en podcast et en vidéo sur radiochablais.ch. La météo avec la bijouterie Exner à Montet. La bijouterie Exner, le créateur de vos envies.
Le stratus est encore toujours présent sur la Riviera et la plaine du Chablais. Il devrait se dissiper en cours de journée, c'est ce que nous dit Météo Suisse. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que en dessus de 1300 mètres, il y a du soleil. Profitez-en si vous nous écoutez depuis les portes du soleil, les Ormonts et le pays d'en haut. Il va faire au maximum aujourd'hui 4 degrés en plaine, 2 à 1000 mètres et 7 à 2000 mètres. Pour demain encore et toujours du stratus en plaine et puis du soleil en montagne au-dessus de 1200 mètres d'altitude. Il va faire de moins 1 à 5 degrés en plaine, de moins 6 à 4 degrés à 1000 mètres et de 0 à 5 degrés à 2000 mètres.